Et clairement, dans mes relations, pareil, j'ai toujours voulu prouver au départ mes premières relations que bah, je méritais cet amour et que j'étais quelqu'un de bien. Et en fait, il n'y aura jamais assez d'actes puisque ce n'est pas la bonne personne et ce n'est pas le bon combat.
En fait, c'est ça, c'est beau ce que tu
Et
dis.
voilà, en fait,
C'est pas le bon combat.
je me suis rendu compte que ma plus grosse relation, c'était un échec et j'étais responsable de ça. Parce qu'en fait, je ne m'aimais pas et j'ai toléré des choses inacceptables. Et tout ce que je voulais, c'est qu'ils me disent, mais si, t'es une personne incroyable, regarde tout ce que... Et en
T'as besoin
fait,
qu'il te valorise
je
parce que
n'ai
tu n'arrivais pas à
jamais...
le faire.
J'aurais pu poser tous les actes du monde, ça n'aurait jamais suffi, en fait.
Hello tout le monde, bienvenue dans Féminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou, made in Belgium. Moi c'est Chloé.
Et moi, c'est Anouk.
Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Je ne vais pas dire tout le monde parce que je ne pense pas que tout le monde soit dans le cas, ou peut-être à certains moments de sa vie. On va parler de la dépendance affective. Alors il faut savoir que si vous avez besoin, et ça c'est très important, d'un coaching, Anouk, tu es coach en dépendance affective. Mais toi, tu as envie de l'amener différemment.
Bah, j'ai envie de parler de maturité affective. Alors, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est qu'on est tous plus ou moins dépendants de manière affective dans nos vies, à différents âges, de manière plus forte ou moins forte.
Ouais.
On est d'une maman et donc un lien se crée. Donc déjà, dans la petite enfance, de toute manière, on dépend de manière affective de nos mamans, de nos parents.
Ouais.
Donc, ça, c'est sûr, mais j'ai envie de parler de maturité affective parce que donc ce lien perdure toute notre vie. On ne pourra jamais effacer certains liens, notre histoire, nos blessures, des choses peut-être même inconscientes qu'on a vécues et qui sont là, dont on n'est vraiment pas, on perçoit pas forcément.
Non, parfois il y a des petites choses qui t'arrivent qui en fait finalement ont parfois un impact de fou que tu peux d'ailleurs délivrer dans tout ce qui est thérapie alternative, etc.
Totalement.
Dans
Et tu
le
n'en es pas
NDR,
conscient.
par
Ouais.
exemple, c'est parfois moi c'était un cauchemar, par exemple. Il y avait un cauchemar qui avait été hyper impactant.
Exact. Mais si on te dit, tiens, est-ce que tu as un cauchemar que tu conscientises comme ça, tu vas dire, bah non, je ne sais pas, pas
Enfin,
forcément.
ça me fait rien, quoi. Enfin,
Ouais,
tu dis
non,
oui, c'est juste
voilà.
un cauchemar. Et
C'est
le c'est
ça.
juste un, c'est pas tout à
Mais
fait ça.
d'amener cette idée de maturité affective, c'est important parce qu'en fait, c'est apprendre à être au clair avec ce qu'on a pu vivre dans notre vie, nos limites, nos peurs, nos blessures, et pouvoir grandir en fait, et pouvoir conscientiser progressivement dans nos réactions tous les jours, dans nos comportements, et se dire, OK, là, je suis en train de réaliser que ben, ce comportement-là, il est lié à ça, et donc, OK, il faut que je prenne du recul, il faut que je me pose, il faut que j'en parle. Et c'est très important parce que on va pas totalement, j'ai pas envie de dire guérir parce qu'en fait c'est normal en fait en tant qu'être humain d'avoir des dépendances et des
Ouais.
liens. On est des gens de contact et de relations.
Oui, donc limite, c'est normal. Enfin, c'est pas de la dépendance, mais c'est plus un. C'est compliqué un peu, hein,
C'est
finalement,
inhérent
hein.
au fait d'être
Ouais.
un être humain.
C'est
Voilà,
ça.
quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt ouais, cette conscientisation et cette maturité dans nos relations. Et on a reçu un invité, tu as reçu un invité qui parlait d'autosuffisance. J'aime beaucoup cette idée parce que j'aime pas trop le côté indépendance, tu vois, dépendance affective,
Ah, c'est
maturité.
soit
Mais
l'un, soit l'autre, oui,
indépendance,
non.
tu vois, tu as l'autonomie, ça veut dire que tu peux fonctionner seul, tu n'as pas besoin des autres, mais t'as quand même besoin de ce cadre, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire les choses par toi-même, sans l'aval, sans la valorisation, sans la reconnaissance des autres.
Moi, j'irais même plus loin.
Ouais.
C'est que pour moi, cette autosuffisance émotionnelle, c'est à ce moment-là, en fait, la possibilité de se dire, je me choisis.
Exact.
Donc en fait, c'est je peux être avec quelqu'un d'autre. Donc oui, j'ai besoin de quelqu'un d'autre peut-être pour fonctionner mieux. Si et seulement si cette personne m'apporte un cadre sain, bienveillant et dans quelque chose où on est deux personnes à part entière et où on avance ensemble. Tu vois, c'est pour moi en fait au-delà de ça de se dire j'ai besoin de personne. C'est pas j'ai besoin de personne, c'est que dans le cas où la personne est nocive ou toxique ou pas saine, à ce moment-là, je m'autosuffis.
Ouais, ce que je voulais dire, c'était plus
Tu
que
vois?
le mot indépendance, ce qui va pas, c'est que, par exemple, quelqu'un dans un travail, tu fais un travail, une fonction. Quand tu es autonome dans ton travail, tu peux travailler seul, mais tu as besoin quand même de certaines
de support pour
voilà,
certaines choses.
Ou de certaines personnes pour pouvoir faire en sorte que le process avance.
Oui, mais
ou
voilà,
y a des interdépendances.
C'est ça.
Mais être indépendant dans ton travail, ben, tu fais n'importe quoi. Je veux dire, tu peux pas aller dire « Ok, moi, je fais ça » et tu poses pas de questions au service avant, après, les conséquences. Tu peux pas faire ça. Dans un projet, il y a plusieurs parties prenantes. On interroge... Enfin, voilà.
Mais tu peux jamais
mais
évoluer
mais tu peux
seul,
travailler...
En fait.
Voilà, c'est ça. Mais tu peux travailler en toute autonomie. Mais c'est un peu le même principe, tu vois. Et maintenant, c'est vrai qu'on parlait des relations amoureuses, mais clairement, il y a plusieurs domaines dans lesquels la relation de dépendance affective se fait ressentir. Le premier foyer, c'est la famille. Après, effectivement, tu as les relations amoureuses et le travail parce que ça peut poursuivre vraiment les gens jusque là-bas.
Et tu sais quoi j'ai envie de te dire, les relations, comme tu disais, famille, etc., et amoureuses, mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi en dépendance affective amicale.
Grave.
Et on n'en parle pas assez, parce qu'on parle souvent de la dépendance affective amoureuse,
oui.
Mais la dépendance affective amicale, c'est vraiment aussi quelque chose...
C'est un vrai sujet,
ultra présent. Je veux dire, moi, par exemple, plus jeune, j'avais vraiment beaucoup... Moi, j'ai toujours été quelqu'un, j'ai eu beaucoup... Enfin, on en parlera dans un autre podcast. Moi, j'ai été victime un peu d'harcèlement scolaire en étant enfant. On en parlera dans un autre podcast, donc c'est pas le sujet. Mais du coup, ça a amené que quand j'avais une amie, c'était ma meilleure amie, et j'étais vraiment jalouse si cette personne avait des liens aussi forts qu'elle avait avec moi, avec d'autres personnes. J'étais très possessive et c'était genre, c'est moi.
Exact.
C'est moi ton double. C'est avec moi qu'on t'associe et je supporte pas qu'on t'associe avec quelqu'un d'autre.
T'avais peur que la personne t'échappe et qu'elle puisse...
Encore une fois, j'avais peur, comme dans la dépendance affective amoureuse.
C'est ça.
J'avais peur de perdre l'autre parce que je m'identifiais à l'autre, je me caméléonisait à l'autre, tu vois, c'est vraiment le côté caméléon où t'as l'impression en fait que bah, du coup tu ne t'auto-suffis pas et que t'as besoin aussi de complètement t'effacer pour ressembler à l'autre, pour qu'elle t'aime, et finalement c'est ce puits sans fond puisque c'est de l'amour que tu dois te donner à toi-même, sinon en fait ça fonctionne jamais l'histoire.
C'est le même schéma que dans les relations
mais
amoureuses,
mais c'est le même schéma,
exactement.
C'est pour ça que je me dis en fait on n'en parle jamais, enfin, j'ai rarement entendu quelqu'un parler de dépendance amicale affective amicale. Mais ça reste de la dépendance affective.
Ouais, j'ai quelques amis qui m'en ont parlé, et des connaissances aussi qui l'ont vécu. Et moi, c'est plus aussi sur le lieu du travail où je me suis dit, ah ouais, à ce point-là, parce que désir de reconnaissance,
ma collègue,
valorisation.
Ouais,
mais vraiment, ça m'a frappée. Mais clairement, ça vient aussi de... On en parlera aussi dans d'autres podcasts parce que c'est des sujets à part entière, mais ça vient des blessures de l'âme et probablement que ce sentiment de besoin de combler à ce moment-là, tu vois, ça vient aussi peut-être de des blessures type abandon, rejet, qui viennent de ton histoire d'avant. Bon, voilà, on va pas refaire. Mais est-ce que éventuellement quelque chose te mettrait sur la voie de pourquoi tu as eu besoin de combler ou ou pourquoi tu avais peur et pourquoi tu avais besoin absolument de toute son attention, de toute son amitié que pour toi, de voilà.
Parce que bon, après, moi, j'ai fait beaucoup de thérapies alternatives. J'ai fait de l'EMDR, donc il y a tout ce qui est trauma. Mm-hmm. J'ai fait de la constellation familiale, qui fait que, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Mais on va dire que, tu sais, on dit souvent que l'enfant, même avant même de naître, dans l'embryon, tu peux déjà créer des blessures à ce moment-là.
Exact.
Moi, par exemple, ma mère m'aime de tout son cœur. Je suis le cadeau de sa vie. Mais quand j'étais dans son ventre, elle a fait un déni de grossesse pendant quelques mois. Et je n'étais pas, du coup, de un, voulu. De deux, quand elle a su qu'elle était enceinte de moi, parce qu'on lui a fait des remarques désobligeantes en mode... parce qu'elle avait 42 ans, en mode...
T'es
pas un peu trop jeune pour encore avoir un enfant, tu sais, avec beaucoup d'ironie. Bah, du coup, elle a fait tout pour me perdre. Et donc, elle a fait des... Et elle avait déjà eu des fausses couches. Mm-hmm. Donc, elle a tout fait pour me perdre. Et elle m'a dit, je faisais du sport à outrance. Je faisais tout pour te perdre. Et au final, elle m'a dit, tu t'es accrochée. Et tu te battais déjà pour la vie. Et peut-être que finalement, je me battais déjà pour l'amour.
C'est ça.
Je me battais déjà pour être aimée. Je me battais déjà... Et en fait, j'ai l'impression... Je viens de me rendre compte de ce que je dis au moment où je le dis. J'ai l'impression, en fait, que depuis ce moment-là, j'ai toujours dû me battre pour être aimée.
Ouais.
Et pour qu'on me dise, tu as le droit d'être là, d'être valorisé.
Tu mérites l'amour.
Tu mérites. Et en fait, je me rends compte là, à l'instant où on en parle, qu'en fait, ça vient de là.
Exactement. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que...
Tu vois, entre autres avec mon père aussi, où il y a eu ce sentiment d'abandon et tout.
Il y a plusieurs éléments. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison. Effectivement, qui se succèdent. Mais on sous-estime trop souvent ce qui se passe dans la petite enfance et que ça...
Et comme dans Chloé la même dit, intra...
Voilà, comme dit Chloé, avant même déjà qu'on soit né, on est déjà en vie en tant qu'embryon. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on répercute et on le sous-estime, mais ça a des conséquences toute notre vie, exactement.
C'est ça.
Et c'est très important de pouvoir, à un moment donné, se dire « Ok, mais là, j'ai un comportement qui est un peu excessif. D'où ça vient? Pourquoi ?» Et ce besoin, comme tu dis, d'avoir le sentiment d'avoir le droit d'être aimé, en fait.
Oui, de se battre, tu vois. Ouais. Moi, je passe mon temps vraiment à me battre, à faire en fait un running de folie.
J'ai envie de te poser la question en relation amoureuse, dans tes relations que tu as pu avoir. Est-ce que, justement, là... On est dedans aussi. Hein.
Après, elle le sait parce que c'est ma pote. Mais...
Non, mais ouais. Clairement, c'est ça. Ouais.
C'est me battre pour être aimée. Mais vraiment, je suis dedans. Je rame, quoi. Mais moi, je gagnerais les Jeux Olympiques si c'était juste basé sur ma dépendance affective. Hein, les gars, faut pas
t'as une personne en face de toi qui, on en a déjà parlé, qui n'a pas forcément peut-être envie d'être en relation ou qui n'est pas, qui est juste elle. Mais toi, qui as besoin de convaincre que tu es la personne idéale, que tu as des qualités. Et plus, en fait, il ne montre pas son intérêt, plus tu vas devoir prouver, redoubler d'efforts. Et en fait, les femmes qui... Alors, c'est bizarre comme terme, mais les femmes qui aiment trop, les hommes qui aiment trop... Alors, c'est bizarre de dire trop, mais
bah
oui.
Non, c'est trop. C'est parce que c'est trop extrême.
Voilà, c'est-à-dire que ça dépasse ton propre amour et ton propre respect de toi. Ce sont des personnes qui, très souvent, ont évolué dans des familles où il y a eu des petites choses qui ont... Pas un déséquilibre, j'aime pas dire ça, mais personnellement, moi, j'ai eu la même chose avec ma maman qui avait... Bon, c'est un peu compliqué d'en parler ici, mais qui n'était pas très disponible au niveau émotionnel, on va dire. Ça, c'est encore compliqué d'en parler. mais du coup, effectivement, c'est toutes des choses qui impactent. Et clairement, dans mes relations, pareil, j'ai toujours voulu prouver au départ mes premières relations que je méritais cet amour et que j'étais quelqu'un de bien. Et en fait, il n'y aura jamais assez d'actes puisque ce n'est pas la bonne personne et ce n'est pas le bon combat.
En fait, c'est ça. C'est beau ce que tu dis.
Et voilà, en fait...
C'est pas le bon combat.
Je me suis rendu compte que ma plus grosse relation, c'était un échec et j'étais responsable de ça. Parce qu'en fait, je ne m'aimais pas et j'ai toléré des choses inacceptables. Et tout ce que je voulais, c'est qu'ils me disent « Mais si, t'es une personne incroyable, regarde tout ce que... » Et
en fait, besoin qu'ils te valorisaient parce que tu n'arrivais pas à le faire.
J'aurais pu poser tous les actes du monde, ça n'aurait jamais suffi, en fait.
En fait, ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, c'est comme tu dis, c'est pas le bon combat. Et pendant que tu parlais, justement, je me disais... Moi, j'ai eu l'impression... Enfin, j'ai pas eu l'impression. Toute ma vie, je me suis battue, mais battue pour l'amour de l'autre...
C'est épuisant.
Et en fait,
hein.
c'est épuisant, mais tu te rends pas compte.
C'est épuisant.
C'est vraiment émotionnellement, c'est d'une lourdeur, c'est horrible. Et quand tu, petit à petit, quand tu guéris de la dépendance affective, tu te rends compte que pour aller vers la guérison, en tout cas, bon, tu es toujours en rémission, hein, qu'on s'entende.
Oui.
Mais pour aller vers la guérison, tu continues à te battre. Mais tu te bats pour plus. C'est plus l'autre que tu veux qui t'aime. Tu te bats pour t'aimer toi-même.
Bien sûr.
Et en fait, ça reste toujours un combat parce que, encore une fois, comme tu t'aimes pas, en fait, t'es face à quelqu'un qui ne t'aime pas. Et ce quelqu'un, c'est ton miroir.
Ah ouais.
Donc, de nouveau, tu rames pour qu'il t'aime. Mais on s'en fout parce qu'au final, cette personne-là, à force que tu rames pour qu'il t'aime et que tu l'acceptes comme elle est, elle va t'aimer. Et en fait, du coup, tu vas t'aimer. Et donc, t'as compris, comme tu disais, du coup, c'est le bon combat. C'est le combat de chercher à tout prix de s'aimer soi-même. Et ça... moi, c'est ce que j'apprends maintenant et je suis beaucoup plus, je pense que tu le remarques aussi, en accord avec moi-même et très à l'aise et plus dans cette quête de l'amour. Si j'ai l'amour demain, évidemment, je serai heureuse et c'est ce que j'ai envie. Mm-hmm. Mais maintenant, je suis dans la quête de l'amour de moi, envers moi. Ouais. Et donc, au final, je suis déjà occupée. Je rame, hein, donc ramer pour un, déjà, c'est dur. Alors, je ne vais pas ramer pour deux. Donc, moi, maintenant, j'accepte toute situation et toute relation qui est dans la fluidité, qui est facile et qui est dans la légèreté. C'est ce genre de relation vers lesquelles je veux aller. Tout ce qui est dur, difficile, à l'usure, il faut ramer pour quelqu'un d'autre. Non. Ça, c'est mort.
Mais non, et c'est vrai que quand tu as ce comportement-là qui est plus fort que toi, hein, ça te dépasse, tu as une jalousie excessive, tu es possessive, tu veux tout contrôler,
ouais.
tu as cette position de sauveur, tu es toujours en train d'aider l'autre personne. Elle t'a rien demandé, mais tu l'aides, tu l'excuses de tout, c'est toujours ta faute à toi. Non, mais c'est parce que j'ai dû provoquer quelque chose qui fait que tu as réagi comme ça, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est moi, en fait, c'est ouais. moi. En fait, et le problème, c'est que quand tu as ces comportements-là, qui tu attires ? Toujours le même type de personnes.
Bah, des personnes qui ont besoin, aussi,
hein. Oui, et des personnes qui ont besoin d'être sauvées et qui
recherchent,
qui se victimisent ouais. et qui sont dans leur élément naturel et tu leur offres sur un plateau tout ce dont ils ont besoin et c'est une alimentation comme ça. Si toi t'as pas le déclic,
c'est pas ça.
Mais tu passes ta vie à être dans le don de toi. Et comme tu disais, t'es épuisé psychologiquement, émotionnellement, t'es au bout de ta vie, ça se ressent physiquement aussi.
Ouais.
Tu as peut-être besoin de compenser, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être toute forme de drogue,
la maladie.
Ça peut être... Franchement, on se rend pas compte, mais... Et moi, je peux en parler aussi, quand j'étais pas heureuse, j'avais tendance à compenser avec de la nourriture. J'allais acheter des trucs en cachette. J'allais jeter les papiers dans la rue, dans la poubelle publique. Enfin, la honte. Enfin, je dis pas la honte parce que voilà, j'assume. Mais quand je me regarde maintenant avec le recul, je me dis putain quoi.
T'as de la compassion pour elle ou t'as pitié ? Est-ce que t'en es où ?
Non, j'ai.
La Anouk d'avant.
Je me suis pardonnée tout ça.
Tu t'es pardonnée ?
Ouais.
T'as de la compassion ?
Dis-moi. Oui, oui. Oui, oui. Enfin, c'est voilà. En fait. Jérém l'a dit là tantôt, on a eu une magnifique interview, c'est la petite Anouk, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je lui parle et je la comprends et c'était le chemin obligé. Et si c'est pour arriver aujourd'hui à cette maturité que j'ai et cet amour de moi que j'ai aujourd'hui, bah c'est OK en fait. Et je la regarde et je me pardonne parce que c'est vrai que parfois, tu sais, on a le recul où les gens se disent « Ouais, j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'ai perdu... Ah, » Tu vois, t'es pas content, ouais. Tu te dis tout ce temps perdu. Les gens te disent « Pourquoi tu restes avec cette personne ?» Mais tant que t'as pas eu le déclic de te dire « OK, ça suffit, je me fais passer en priorité, je suis en train de déconner », on aura beau te dire arrête, n'importe quoi. Enfin, ce temps-là, c'est qu'il était utile quelque part.
Ça vient de toi, en fait.
Ça doit venir de toi. Et
toute guérison, en fait, toute volonté, la volonté de la guérison, elle ne peut venir que de toi-même. Et en fait, et là, je rebondis sur ce que tu dis. Toi, les gars, allez suivre Anouk vraiment sur les réseaux sociaux. C'est le lab d'Anouk. Parce qu'elle va vraiment vous aider. Elle m'a aidé moi déjà aussi, hors podcast.
podcast officieux.
Podcast officieux. Non, mais elle m'a déjà aussi beaucoup aidé justement à comprendre un peu mieux ma dépendance affective, à me donner des clés pour en sortir. Et donc, si vous avez besoin, Anouk, au-delà d'être la super co-animatrice de Féminity et l'amie que tu es,
c'est gentil.
T'es également une excellente coach. Donc, allez la suivre, le lab d'Anouk, où justement, donc coach, comme tu le disais, en maturité émotionnelle et en reconnexion à soi, en développement.
En fait, tout part de là. Très vite, on fait le lien avec... on est venu naturellement dessus. L'amour de soi, l'estime de soi. La confiance, c'est encore autre chose. Là, on a besoin d'aller consolider cette estime.
Et la féminité, du coup, aussi. Hein. Ça, tu la mets. Parce que toi, tu es quelqu'un qui est quand même fort dans sa féminité.
Ouais.
C'est un des sujets pour lesquels on avait une fois discuté aussi. Donc voilà. Parenthèse fermée, mais donc le lab d'Anouk, les amis, n'hésitez pas à aller la suivre et à du coup avoir vos consultations avec elle parce qu'elle consulte, tu consultes aussi quoi.
En Zoom ou en présentiel.
Voilà, donc n'hésitez pas, ça c'est la petite parenthèse.
C'est la petite parenthèse.
J'avais, tu sais, avant qu'on commence le podcast, je t'ai dit, il faut absolument que je parle d'un truc qui a un rapport avec les guêpes.
Ah oui, c'est vrai, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc?
Merci de me servir à rien, parce que tu t'en souviens pas.
Mais attends, t'as... combien d'heures de travail aujourd'hui? Désolée.
Je sais pas te dire, vraiment moi...
Ah non, mais...
Voilà,
moi, déjà, j'ai pas de mémoire à la base, mais alors en plus...
C'est ma petite Dory d'amour, quoi.
Ah, c'est vrai, ça, Molière et Dory. Ouais, Dory revient, voilà.
Dory is back. Moi, on aime Dory. On aime très, parce qu'elle est très attachante, Dory.
Parce que moi, je suis curieuse quand même.
En fait, un jour, vous savez, cet été, les guêpes, il y en avait partout. Elles étaient insupportables. Et en fait, je me suis fait un petit parallèle. Je ne sais plus avec qui j'étais. J'étais assise en terrasse et il y avait une guêpe. Elle ne me lâchait pas la grappe.
Et là, t'étais tartinée de miel ou...
Ah, mais je sais pas. Je crois qu'il y avait des phéromones, j'en sais rien, moi, ce que j'avais. Mais...
Ah ouais, mais ça, ça joue. Hein.
Mais elle ne me lâchait pas la grappe. Et tout l'été, j'ai eu ça. Et en fait, j'ai fait un parallèle avec la dépendance affective. Tu me dis si on est OK là-dessus.
Vas-y.
je me suis dit, la guêpe, c'était Chloé du passé. Chloé en dépendance affective. Les mecs, c'était moi qui étais assise occupée à boire un verre. Posée. Okay. Et je me suis dit, moi, je suis OK que la guêpe, elle soit là dans l'univers. On vit tous dans le monde, on a tous notre place. Mais en fait, plus elle me collait, et elle venait m'emmerder, plus elle me saoulait, et donc plus je partais d'elle. Et plus je partais d'elle, plus elle me suivait. Et là, je me suis dit,
oui.
Mais en fait, j'étais la guêpe qui collait tous les mecs, qui leur cassait la tête. Et qu'est-ce que ça donnait comme résultante? Mais qui fuyait.
Bien sûr.
Tu vois, c'était que voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, bah, en fait, la dépendance affective, bah, c'est une guêpe qui te colle au cul, que tu ne veux pas qu'il soit dans ta vie, parce que tu lui as dit, fais ta life où on co-vit ensemble, mais arrête de me coller et de me saouler et de ne pas me laisser manger, de ne pas me laisser vivre. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est une belle manière d'interprétation, de métaphore, de dépendance affective.
Oui, et je suis d'accord avec toi, et ça touche à la deuxième blessure qui est le rejet.
Oui, du coup, plus tu l'envoies chier, plus... Oh là là.
En fait, clairement, la dépendance affective est liée aux blessures de l'âme, on l'a dit, l'abandon... Le rejet. Ouais. Et en fait, le rejet, ce qui est compliqué, c'est ce mécanisme-là. C'est plus on te rejette, plus tu vas te dire « Ok, j'en vaux pas la peine, je mérite pas l'amour, non mais je comprends pas. » Et en fait, tu vas t'acharner. C'est ce même mécanisme de prouver que tu mérites
Est-ce que tu as de la valeur. Est-ce que tu connais le masque? Parce que moi, je connais... Alors, les cinq blessures de l'âme, on avait déjà fait... Un sujet là-dessus.
On avait touché un petit peu à...
On va en refaire un plus développé, bien sûr. Parce qu'on est toutes les deux évidemment à fond là-dedans. Et j'ai d'ailleurs acheté le deuxième livre de Lise Bourdeau qui a créé Les cinq blessures de l'âme.
Comment
c'est la guérison.
Ouais,
tu vois, je l'ai acheté pas à lire, je l'aime beaucoup. Mais du coup, je sais donc évidemment le masque par exemple de la blessure de l'abandon, c'est la victime. Mm-hmm. Mais t'as le masque de la blessure de trahison qui est le contrôlant. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles du masque de la blessure de rejet?
Là, je l'ai pas comme ça.
Je sais plus non plus. Ce serait cool qu'on puisse.
Mais c'est vrai que le contrôle, ouais.
C'est quoi? J'ai demandé à notre Réal. On s'en fout, on est en direct, mais on s'en fout. Est-ce que Réal, tu peux aller checker, s'il te plaît, sur Google, quel est le masque de la blessure de rejet, s'il te plaît?
Masque, blessure, rejet.
On est toujours en direct ou pas? Tu mets un OK? Ouais, OK.
On aime ça. Quelle efficacité.
Ouais, parce que du coup, je sais plus, c'était pas le non. J'allais dire le masochisme, mais c'est pas du tout ça, je
ouais,
pense.
Ouais, je l'ai plus par cœur.
Est-ce qu'on l'a? Voilà,
fuyant,
tout à fait.
Bah oui, forcément, rejet fuyant.
C'est ça, en fait, c'est comme t'as peur d'être rejeté, mais tu préfères toi, en fait, partir en premier. Et c'est souvent, par exemple, des blessures de rejet, c'est des corps qui sont très...
Bien sûr.
Très fins, qui veulent pas qu'on les voit, qui sont, tu vois, mais tu sais, se sont sentis rejetés.
Tu sais, dans la blessure de l'abandon, on parle souvent des couples ensemble ou des familles qui sont hyper fusionnelles ou des amitiés fusionnelles. Ouais. Mais en fait, le fait d'avoir du mal à sortir de ça, mais en fait... Le fait d'avoir peur de rentrer en relation est aussi une matérialisation de la peur de l'abandon. Peut être. C'est-à-dire que
complètement
le fait
là-dessus.
De ne pas oser t'engager dans une relation ou d'être juste, d'être en couple ou te dire en fait non, laisse tomber. Parce qu'en fait, tu as déjà peur de l'échec, de l'après, d'être blessé, de souffrir, du rejet,
mettre
de l'abandon.
Dans le futur et dans le passé quand t'es en blessure de
grave.
L'abandon.
Grave. Et ouais, c'est. Mais j'ai lu un truc très, très, très impactant. Et aujourd'hui, je me dis waouh, c'est fort. C'est. Tu vois, les trahisons, mm-hmm. finalement, elles ont du bon. Est-ce que toi, ça te parle quand je te dis ça?
Alors, attends. Je suis à vous dans un instant. Répète, les trahisons.
Donc en quoi
la... ça rime
En quoi la trahison peut être en fait un élément libérateur?
Un élément libérateur.
Carrément libérateur. Et plutôt à favoriser.
Ben parce que c'est peut-être quelque chose que tu savais déjà dans le fond.
En fait, trahison au sens large, hein, mais en fait, je te donne un exemple. On parlait du poids des familles, tu vois, on parlait du poids des familles, ouais. du fait de plaire, parce que bon, on va parler de la famille, sinon il y a trop de domaines, c'est un peu compliqué. Tu veux plaire, tu es dans la dépendance quelque part de le regard de ton père, de ta mère, de l'idée qu'ils avaient pour toi dans la vie, de tes projets, de ton métier, de leur éducation, de ce qu'ils projettent sur toi de réaliser dans ta vie.
Ouais, ouais. Ok.
Et en fait, nous, notre existence, c'est de se libérer créer un petit peu, enfin, on cherche notre voie quelque part.
Ouais.
Très souvent, c'est pas la voie de nos parents. D'accord.
Qu'ils auraient eu pour nous.
Ah ben, ce qu'ils imaginent. Très, ou alors, très vite, ouais. On se confronte à bah non, papa, moi, j'ai pas envie de faire ces études-là. Ben non, ce métier-là, je m'en fous. Ah non, en fait, j'aime pas le foot. Pourquoi tu veux m'inscrire au... Tu vois le.
Oui, c'est les projections des parents, en fait, ouais. De ce qu'eux auraient voulu faire ou être, qu'ils projettent sur toi.
C'est ça. En fait, ouais. En nous donnant la vie,
ouais.
Les parents nous donnent. OK ? Donc, on reçoit, on se sent loyal, on se sent devoir une certaine forme de loyauté à notre famille, à nos parents. Et en fait, le fait de trahir ça en ayant nos propres choix et de se démarquer de leur projet de vie pour nous, c'est déjà une forme de trahison.
Waouh, lourd.
Et en fait, les trahisons sont saines parce qu'elles nous permettent d'évoluer et d'être nous-mêmes et d'accéder à nos vrais projets de vie, à ce qu'on veut pour nous réellement au fond. Et pas ce que nos parents veulent pour nous. Et on a toujours peur de les décevoir, on culpabilise, on a peur qu'ils nous dévalorisent, qu'on ne compte plus. On a toujours besoin qu'ils nous reconnaissent.
Encore une fois, on a peur de perdre leur amour.
Exact, mais c'est toujours en lien avec cette dépendance. En fait, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense.
Mais après, n'oublions pas que la dépendance, que la blessure de trahison est la suite de la blessure de l'abandon. Hein.
Oui.
Ça vient, en fait, la blessure de l'abandon est en fait entre, je crois, 0 et 3. Et alors, la blessure de trahison vient plus tard, mais en fait, elle vient à travers la blessure de l'abandon.
Mais donc, c'est super fort. Quand tu discutes avec certaines personnes qui ont des projets de vie, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et quand tu écoutes leurs craintes, leurs limites, leurs peurs, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est souvent la chape familiale ou la chape du conjoint ou la chape de non, mais en fait, je ne peux pas faire ce genre de métier. Non, mais en fait, ils n'arrivent pas à se projeter parce qu'ils ont ce poids de ce qu'on a.
Le poids familial, en fait.
Oui,
le
et
poids
de ce que
l'héritage, peut-être.
Est-ce que
même.
Finalement, eux-mêmes ont, pendant leur jeunesse, peut-être projeté l'image du couple.
Oui.
Tu vois? Tu vois tes parents être dans une typologie de couple. Tu peux te dire ah, jamais ou c'est exactement ce que je veux parce que moi, je veux cette stabilité ou jamais ce genre de truc. Mais après, tu dois te libérer de ça et tu vas te rendre compte que peut-être que
tu
en expérimentant,
l'inverse.
Tu ne voudras pas du tout ça. Alors que dur comme fer, c'est ça que tu voulais dans ta tête. Et toi-même, tu dois te convaincre que en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que... Non, mais ça ne correspond pas à ma valeur de base. Mais en fait, tu vas recréer tes propres valeurs, ta propre image de... enfin, ou ta propre idée de ce qu'est le couple, de ton travail idéal, de ce que tu veux faire. On a reçu, on a eu la chance de recevoir Valentine dans un podcast qui nous parlait de sa maman qui avait des craintes du fait qu'elle parte et que ses peurs... les peurs de sa maman, mais qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas
tu vas être
nomade digital, tu vas te faire kidnapper, bon c'est pas vivre de en voyage, mais c'est n'importe quoi, c'est pas une c'est une vie de fou, une vie idéaliste. Et ben en fait elle écrit sa vie, elle a trahi quelque part, tu vois, c'est une sorte de trahison.
Ouais, mais lourd ce que tu dis. Mais tu sais là où je me dis aussi d'une certaine manière, au final tu vois tous ces gens qui par exemple qu'on fait 8 ans d'études. Ou 6 ans d'études. Allez, un bac, allez, bac plus 3, ça fait quoi, 5 ans bac, non, bac plus 3,
ça fait quoi? Oui, c'est ça. Ça fait 6 ans.
Bac plus 3, ça fait 6 ans, ok. Admettons, t'as fait un bac plus 3, tu finis ta dernière année. T'as passé 6 putains d'années de ta life à étudier pour un domaine spécifique. Mais il y a 6 ans qui sont passés. Dans les 6 ans, t'as vécu, t'as évolué, t'as peut-être changé. Soit t'arrives à l'aboutissement des 6 ans, t'as ton fucking diplôme, et tu te dis, let's go, je vais enfin faire le métier que je kiffe. Ou alors, tu arrives à la fin des 6 ans, tu voulais les faire, c'est peut-être rien à voir avec tes parents, tu voulais faire ça 6 ans avant. Mais tu arrives 6 ans plus tard et tu te dis, en fait, c'est plus ça que je veux. Et là, parfois, il y a des gens qui vont se dire, j'aurais pas fait tout ça pour rien.
Exact.
Et vu que j'aurais pas fait tout ça pour rien, je vais continuer dans quelque chose qui ne me correspond plus. Et c'est pareil pour les couples, c'est pareil pour les amitiés, c'est genre, j'ai investi du temps dans ça, même si ça ne me correspond plus, je ne vais pas sortir. Et je pense... que ça aussi, c'est un peu une dépendance à ton idéal et l'idéologie que tu as fait de ta vie.
Clairement, tu l'as super bien illustré.
Tu vois ?
C'est un bon exemple aussi.
Alors qu'on évolue constamment.
Et c'est pour ça que quand les gens me disent « Ouais, mais bon, la dépendance affective, genre, pas moi. » Mais si, en fait.
Mais peut-être pas dans le domaine, parce qu'encore une fois, il n'est pas assez vaste, tu vois. On croit que c'est que sentimental.
En fait, on l'illustre pas suffisamment avec des exemples concrets de notre vie tous les jours. Et c'est pour ça que je dis vraiment, ça impacte tout le monde et dans tous les domaines. Et sans qu'on s'en rende compte, en fait. C'est parfois vraiment inconscient dans des dans... Mais tu as raison, le fait d'avoir investi énormément de temps dans
d'argent,
tu culpabilises, tu dis mais non, attends, je peux pas acheter ça à la poubelle. Et alors c'est un combat avec toi et toi-même en fait de je vais quand même pas. Et là, oui, ou alors tu disais le couple, on a des enfants,
on s'est mariés.
Ah, tu vois,
mais je veux plus. Bah ouais, mais
ouais.
Et en fait, tu vois, que ce soit dans le taf, que ce soit dans tes amitiés, dans l'amour, dans des passions. Aujourd'hui, je sais pas, j'adore faire de la boxe. Si demain j'ai plus envie de faire de la boxe, quoi, parce que je veux pas décevoir qui, en fait. Moi, je veux pas. J'ai l'impression que c'est un travail inabouti. Alors.
Ouais.
Alors qu'au final, t'as le droit de changer d'avis, t'as le droit d'évoluer. Et en fait, c'est sortir de la dépendance affective ou de la dépendance tout court des choses. C'est aussi accepter que tu as évolué,
ouais,
qu'il y a d'autres choses maintenant qui t'animent. Et c'est ça, finalement, la beauté aussi de la vie, c'est qu'on n'est pas là pour rester les mêmes. On se ferait chier si on faisait tout le temps la même chose. Le but, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'évoluer, tu vois.
Moi,
c'est peut-être de changer d'avis tout le temps. Nous aussi, bien tous sûr. Les podcasts. Moi, tu regardes, et honnêtement,
bah,
les
évolue,
premiers podcasts,
on évolue. Ouais.
Il y a des sujets sur lesquels je suis plus d'accord avec moi-même. Je suis plus du tout d'accord avec ce que moi-même j'ai dit. Et c'est OK.
Bah, amen, heureusement.
C'est pas une vérité absolue, tout ce qu'on raconte.
Ah non, non, c'est clair.
C'est juste un humain qui parle à l'instant T, c'est ce que je pense, c'est ce que je représente, c'est ce qui m'anime. Si demain, j'ai envie de faire autre chose, de penser autrement, mm-hmm. ou de faire un combat, peut-être, de me battre pour un sujet pour lequel peut-être j'étais complètement à l'opposé à un moment donné, bah, j'ai le droit parce que je suis, et être, c'est changer d'avis, peut-être. Ou c'est évoluer, de toute façon.
Moi, je pense à un petit truc qui m'est arrivé, et qui m'est arrivé régulièrement dans ma vie, et avec le recul, maintenant, je sais que c'est en lien avec la dépendance. C'est dans le cadre du travail, peut-être ça parlera à certains.
Ouais.
C'est quand tu as un boss, un manager, je sais pas, un chef, hein, voilà, tout ce que tu veux, et que tu fais une sorte de mini-transfert avec ton père, ta mère, enfin, je sais pas, tu vois, quelqu'un avec qui justement tu as ce lien de dépendance, mais ouais. À la maison.
Ouais.
Bon, t'es grand, hein, t'es parti de la maison, et tu vas dans ce milieu du travail, et tu as ce boss qui est quelqu'un de peut-être plus sage, qui a un certain âge, et ça y est, en fait, tu crées sorte de relation zarbi. Moi, j'ai eu ça avec des responsables. Et après, en fait, je me sentais mal de dire « Non, mais peut-être qu'en fait, je vais quitter ce job. En fait, ça ne me plaît plus. Tu m'as donné ma chance. » Mais en fait, j'avais vraiment le sentiment de trahir la personne. Je culpabilisais de ne pas être bien, d'avoir envie d'autre chose, de me dire « Non, mais... » Et en ça, tu vois, la trahison de dire « Mais je vais lâcher tout le monde. » C'est comme si je les abandonnais, tu vois. De me dire « Mais elle compte sur moi. L'équipe va tomber. » Enfin, ça va être une catastrophe. Et te dire « Ok, ben, je prends sur moi. Tant pis, je reste. » Donc en ça, tu vois, parce que je pense qu'à un moment donné, je l'aurais vécu comme une trahison de me dire, en fait, ça ne me convient plus, je me taille, je prends un job qui me convient mieux, dans lequel je me sens heureux. J'étais prête à me dire, ok, je sacrifie ça, mon bien-être, pour ne pas trahir mon boss, quoi. Ton boss, quoi. Et donc,
c'est ouf ce que
et je
tu
suis
racontes.
Certain que ça parlera à certaines personnes.
Ah bah clairement.
Certaines que oui.
Certains, certaines. On sait que
non,
vous êtes homme.
Je suis certain, mais.
Ah, je suis certaine que ça parlera. À
ça c'est mon côté masculin qui se voit. Ouais, voilà.
Bah écoute, ça me choque que tu parles de ça parce que moi j'ai vécu ça très 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 récemment.
Ah oui, c'est vrai en plus.
Ah ouais, moi tu me lâches ça et je suis en mode. Oui.
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 Ouais, moi j'ai vécu ça alors très récemment. Ça a été. Franchement, je l'ai vécu...
C'est une libération, non ? Quand tu sors de ça ?
En fait, c'est une libération.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
C'est
après,
douloureux.
Après, libération,
hein.
Pas parce que c'était pas génial ou pas parce que c'était
non,
pas
non,
sain,
non.
Mais parce que à ce moment-là, voilà, tu as pris le pli de te dire « je vais faire autre chose ». Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme une rupture.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est ça.
C'est vraiment parce que j'étais tellement investie et en fait, je l'ai vraiment vécu comme une rupture où ça a été dur parce que, comme tu disais, tu projettes... moi, tu vois, c'est, j'ai travaillé avec mon père à l'époque. En plus de ça, moi, j'ai travaillé avec mon père. Ça a été très difficile parce que on n'a pas la même vision du travail ou en tout cas pas la même vision des valeurs et des principes qu'on veut mettre dans la société. Et donc, travailler avec des gens avec qui tu n'as pas les mêmes valeurs et principes, c'est pas une bonne idée, comme avoir une relation de base, en fait.
C'est compliqué. Ouais.
Et donc, du coup, là, dans ça, en fait, moi, j'avais vraiment trouvé quelqu'un avec qui je travaillais, avec qui j'ai une super amitié. Et du coup, à un moment donné, c'était ultra compliqué parce que de dire, j'ai envie de partir pour moi, me développer et développer mes projets et pouvoir développer plus Femininity et d'autres choses. Mais j'ai pas envie de t'abandonner. Et c'est en fait le fait aussi de... J'avais l'impression d'abandonner et, comme tu disais, de trahir.
Et tu sais alors ce que ça fait, cette blessure d'abandon.
C'est pour ça que
tu veux pas le faire. Voilà, on y est, on y
tu
est.
Vois, tu veux pas produire quelque chose que tu sais. Ouais. Et c'est ça qui est super dur. Mais en même temps, encore une fois, ça ne m'appartient pas. Et ça veut pas dire que tu perds tout.
Non.
Tu vois, moi, j'ai gardé mon amitié. Après, ce sera pas comme avant. Ce sera pas... Enfin, voilà, il y a plus le travail. Et en même temps, tout doit pas s'arrêter à 100%. Moi, je suis par exemple, j'ai encore un pied. Oula, mon micro. J'ai encore un pied dans ça. On va dire à l'époque où j'étais à 100%, bah là, peut-être que je suis à 20. Mais en fait, ces 20%-là sont vachement mieux, peut-être que les 100 d'avant.
Ils sont mieux assumés aussi, non ?
Ils sont mieux assumés. Ils sont... Et moi, du coup, ça me permet aussi d'être en équilibre avec ce que je veux et mes projets, mes ci et mes là. Parce que c'était une phase de transition. Et cette phase de transition a été exceptionnelle. Mais à un moment donné. Où là, j'étais un soutien pour la société, un soutien pour la personne, je suis devenue un poids parce que moi, j'étais plus déjà en accord. Et en pensant, parfois, tu penses que rester, quand tu le veux plus, c'est continuer de soutenir. Alors que parfois, rester, quand tu ne le veux plus parce que tu n'es plus dedans, en fait, au final, tu deviens un poids pour l'autre.
Ah ouais, c'est clair.
Et donc, si tu veux parfois faire du bien à quelqu'un, que tu tiens vraiment à la personne ou que tu veux
quitte,
c'est partir parfois qui est mieux que de rester pour les mauvaises raisons.
Et tu vois, ça, tu le dupliques à tous les domaines.
Voilà.
Le couple, la famille, il n'y a rien à faire. C'est vraiment très important. Et quand tu as capté ça, mais qu'est-ce que tu peux progresser dans ta vie ? Vraiment. Et donc, c'est ça, cette maturité-là, c'est de pouvoir t'élever et de comprendre certains mécanismes. Alors, le naturel revient au galop. Tu vas peut-être rencontrer des gens qui vont faire appel à, à des souvenirs
des
ou qui vont toucher
grave,
et en fait tu vas retomber dans quelque chose mais en fait tu auras cette capacité de très vite te dire oh attends qu'est-ce que je suis en train de faire là, ça y est je pars en couille, et de pouvoir directement réactiver et de mettre tes petites balises en fait, parce que le but c'est pas on
c'est
disait
pas
rompre
mur, hein,
mais on sait pas totalement toujours rompre. Tu parlais de 20%, bah oui, il y a des relations où voilà le papa de ma fille je sais qu'il a toujours une influence sur moi, mais tellement minime. Et je mets en place des choses pour que je ne sois plus affectée, qu'il y ait cette distance. Voilà. Et ça, tu l'apprends. Et il y a des outils super pour faire ça.
Est-ce que tu peux nous partager ces deux outils pour arriver, tu vois, dans ces moments où tu es de nouveau la tête dans le guidon, où, tu sais, dans des moments peut-être où tu as moins confiance en toi, tu es un peu plus fatiguée, etc., où tu vas peut-être plus retourner vers tes petits anciens démons, on va dire. Est-ce que tu as peut-être une ou deux clés ? Enfin, moi, je dirais, si j'ai une clé, je dirais que ce serait prendre de la distance, en fait, redevenir spectateur. Ah, sorry.
Non, mais c'est très bien, vas-y, je te la laisse.
C'est redevenir, en fait, bien spectateur de la situation, de parfois se mettre dans un isolement, t'isoler un peu et te juste remettre les choses comme elles sont.
Ouais.
Mais du coup, est-ce que tu as une autre clé ?
Mais non, non, mais en fait, je crois que c'est la première. La première, parce que prendre conscience quand tu es dans le flow. C'est impossible.
Ouais.
On enchaîne. Les journées de tout le monde, elles sont longues. T'es dans l'émotion. Tu passes d'une chose à l'autre. Donc, en fait, on n'a plus du tout conscience de ce qu'on est en train de faire.
Ouais.
Et c'est compliqué. Donc, tu parlais de t'isoler, oui. Mais tu peux aussi prendre le temps de peut-être déposer, en parler.
Écrire.
Écrire. Mais c'est vrai que le premier step, c'est ça. C'est prendre le temps et de ralentir, en fait. Parce que...
Ouais.
En fait, souvent, quand on perd les pédales, et tu peux parler de régime alimentaire, les gens qui perdent l'équilibre, c'est parce qu'ils sont en train de level up soit le niveau, soit l'intensité, soit la fréquence. Et ils n'ont plus... aujourd'hui, on est des êtres où on est tout le temps overstimulé et on ne prend plus le temps de respirer. Et on en a parlé dans le pouvoir du moment présent, de juste être. Non, mais vraiment.
On fait des liens de
ouf. Mais c'est vraiment ça. Ce podcast, il est trop fort, mais allez le voir. Mais c'est ça, c'est de s'arrêter et de faire des pauses, même sur ta journée. En fait, mets-toi des routines. Et ces routines de prise de conscience, de moments où le matin, avant de démarrer, tu fais un peu le bilan, à midi, ou quand tu sens que tu montes en pression, mais sors-toi, en fait, sauve-toi de ça et prends quelques minutes. On parlait du contact avec la nature dans ce podcast, on avait déjà des clés, en fait. Hein. Mais c'est ça, en fait, c'est le moment présent, c'est tellement puissant. Mais allez vous isoler dans un endroit... vous recontactez,
vous ancrez en fait.
Ouais, c'est ça. Et vous reconnectez soit à la nature, soit on parle de méditation, mais C'est, je crois que c'est le premier point. C'est le premier point parce que les autres outils, en fait, ils découlent de ça, mais c'est plus dans la mise en pratique et il faut quand même avoir une un peu screener la personne et voir ce qu'elle...
Chaque personne a son... peut-être, à chaque personne a sa manière aussi.
En fait, j'ai envie de dire que chaque personne a sa solution. Ouais. Et le coaching, c'est très important. C'est, ça n'amène pas des conseils. Donc, il y a des outils de prise de conscience, mais qui sont communs à beaucoup d'autres pratiques. Dans tous les types de coaching, ça va être toujours plus ou moins les mêmes outils. Mais ce qui est important, c'est de travailler vos solutions parce qu'effectivement, chaque vie, chaque expérience est différente, chaque blessure est plus ou moins forte. Ça peut aller à la dépendance affective, ça peut aller jusqu'à des pathologies qui sont traitées au niveau psychiatrique avec de la médication. Donc, n'allez pas voir un coach à ce moment-là. Nous-mêmes, on vous redirigera
vers
des personnes adéquates. Exactement. Mais travaillez vos solutions et pour ça, l'écoute d'un coach, la bienveillance, on va travailler sur ce qui fonctionne pas, comprendre les mécanismes, voir jusqu'où la blessure elle vous impacte dans votre quotidien.
Et aussi, je pense que ton caractère, tu sais, ton caractère, comment tu perçois les énergies, les gens, tu sais, moi j'aime bien le design humain, j'avais fait mon design humain et c'est en fait, le design humain, ça aide à te comprendre et à savoir comment tu réponds à la vie.
C'est ça.
Et en fait, chaque personne répond à la vie
autrement,
différemment.
Oui.
Et donc, c'est ce que toi, tu fais aussi, c'est du coaching aussi personnalisé.
Mais c'est ça.
De voir comment la personne répond à la vie. Et en fonction des problèmes, pathologies, dépendances quelconques, c'est de dire, OK, en fonction de comment toi, tu es, on trouve les solutions avec les outils qu'on a.
C'est ça.
Et donc, c'est ça, ce côté personnalisé, en fait.
C'est comprendre, oui, c'est personnalisé. Et c'est aussi comprendre pourquoi... Parce que certaines personnes vont te dire, en fait, j'ai déjà tout essayé. Très souvent, les gens vont dire «
Il n'y a
rien qui marche ». En fait, on va aller aussi comprendre pourquoi ces premières solutions n'ont pas fonctionné. Et on va se rendre compte que souvent, toutes ces solutions, elles vont tirer sur le même levier. En fait, elles sont presque cousines, quoi, si tu veux.
Elles
ont l'air différentes, mais en vrai, pas trop. Et donc, tu dois amener la personne à recréer des nouvelles solutions, mais sur un terrain qui va te permettre d'opérer un changement à 180 degrés, en fait, vraiment à l'opposé.
Mais tu sais ce que mon psy m'a dit, enfin mon coach, si je lui disais psy, je crois qu'il serait pas heureux. T'as mon coach, il est trop stylé, il s'appelle Bertrand, il me fait péter de rire. C'est mon pote à la compote, Bertrand, en racontant des histoires, il m'appelle Living Color. Enfin voilà, Bébert, ciao, tchuss. Bébert m'a dit.
Bébert,
il sait pas que je l'appelle comme ça. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai kiffé. Il m'a dit. Quand je l'ai appelé, j'ai fait « Voilà, écoute, moi, j'en peux plus. Je veux sortir de la dépendance affective. » Première chose qu'il m'a dit, il m'a fait « En vrai, moi, j'ai pas trop de pression. » Je sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui a marché. Donc, en vrai, si moi, ça marche pas. » En fait, je me suis dit « Mais il est trop fort, lui. » Il m'a vraiment dit « T'as fait 25 000 trucs, il n'y a rien qui a marché. Moi, j'ai pas de pression. Au pire des cas, ça marche pas. Donc, je peux tout essayer avec toi parce que t'as déjà tout fait. Donc, je peux tout réessayer, retenter, machin. On est bien, en fait. » Et là, je me suis dit, putain, lui, il est chouette. Parce qu'il est parti du principe que, viens, on recommence.
Oui, après, voilà.
J'adore.
Il y a vraiment... je pense que parfois, on peut prendre en tant que coach certaines casquettes, un petit peu mentor, un petit peu... Et c'est là qu'on peut, du coup, amener des outils et des choses comme ça.
Bah, lui, il a pris une place très neutre, tu vois.
Mais c'est la place du coach.
Tu vois,
c'est vraiment ça. Okay. Et déposer et... on n'est pas des personnes, on n'est pas des gourous, on n'est pas... c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives sur les réseaux.
Et... Parce que maintenant, il y a beaucoup de coachs aussi, mais ça... Enfin, il y a beaucoup de coachs et peut-être... Parfois, les coachs aussi, il y a beaucoup de part d'ego aussi derrière. Chez certains
clairement.
Coachs, de se dire au final, je veux que ça soit à ma manière, je veux que ça soit... je veux amener mon histoire. Après, moi, je ne vais pas vous mentir, Femininity, c'est un peu... C'est un peu notre thérapie aussi. Enfin,
on ne fait pas du coaching. Enfin, oui, c'est un coaching auto-coaching alors.
Oui, c'est un auto-coaching.
On n'a pas la prétention de coacher des gens à ce moment-là. Quoi.
Non, à ce moment-là, pas. Bon, sinon, dans la vraie vie, elle, oui. Mais,
oui,
moi,
mais là,
pas.
C'est une discussion entre copines.
Mais là, une discussion entre copines, c'est juste de se dire, en fait, on a des révélations sur nos vies.
Ouais.
Et donc, et ce qui est génial, c'est de pouvoir en parler avec plein de bienveillance. Mais
tout ce business derrière aussi, parce que moi, je ne vais pas vous cacher, il y a plein de choses sur Internet, etc. Mais parfois, beaucoup de gens comme Chloé, comme moi, où, enfin, on a déjà travaillé sur notre développement personnel, on a lu des bouquins, peut-être vous avez aussi
un cours,
on a fait plein de choses, vous avez peut-être utilisé des, je sais pas moi, la sophrologie, du yoga, la respiration, tout ce que vous voulez. Et parfois, tout ce qu'on a besoin, c'est d'un rééquilibrage, c'est-à-dire pouvoir parler à une personne tierce. Et en fait, très vite, vous allez vous-même vous rééquilibrer parce que vous avez les outils, vous avez la conscience, mais on est nouveau dans le flow et on parlait d'outils. Ben, un petit rééquilibrage, une heure chez un coach qui vous permet de vous remettre juste bien dans le
viseur, quoi.
Dans
la clarté.
Et, voilà, c'est ça. Ça suffit. T'as pas besoin de tirer une personne sur des séances et des
mais
séances.
Mais c'est ça, c'est de la thérapie brève, en fait.
Clairement.
C'est ça que toi, tu fais aussi. C'est de la thérapie brève, en fait.
En fait, soit tu es une personne qui n'a pas encore pu peut-être prendre conscience de certains mécanismes. Et là, forcément, bah, il faut une période plus longue et on apprend à se connaître. Et je t'apprends à peut-être clarifier ce qui ne va pas ou en tout cas comprendre avec certaines questions. Y aura des choses où tu vas dire « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Ah oui, je réagis comme ça. » Donc là, je t'aide et il faut un peu plus qu'une séance. Mais pour des personnes qui sont déjà conscientes de pas mal de choses...
Séances suffisent.
Oui.
Après, c'est au cas par cas, évidemment. Et
encore
ça,
une fois, c'est personnalisé.
Fais,
ouais.
Voilà.
Tout à fait.
Bah, en tout cas, lourd ce podcast. Hein.
Lourd.
Moi, j'ai senti vraiment une belle énergie, une belle connexion. Qu'est-ce que t'en penses?
Mais ça m'a fait tellement du bien de parler de ce thème parce que...
Moi, je me sens réénergisée après.
Ouais, mais moi aussi.
Et on va aller manger après.
Mais... Ouais, non, mais en revenant du taf, j'étais un peu en...
En down.
Et là, ça m'a réénergisée, ouais.
Écoutez, les amis, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est...
Prenez soin de vous.
Aimez-vous.
C'était la journée de la santé mentale. Hein.
C'était quand, ça?
C'était hier.
Ouais. Ah bah voilà. La journée de la santé mentale, bon bah du coup pour vous ce sera pas hier, ce sera quand vous verrez le podcast,
ouais,
mais en tout cas c'est ultra important bah de penser à soi d'abord, de si vous avez un combat à faire pour que quelqu'un vous aime, bah faites-le avec vous-même.
Ah c'est beau,
c'est beau,
j'adore,
hein. Ouais, j'ai bien clôturé.
Ah, j'adore.
Bon, les amis, nous, on se revoit très, très bientôt. Donc, si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, thérapie brève, coaching en maturité émotionnelle, ça se passe du côté de l'Instagram d'Anouk, le lab d'Anouk. Si vous avez besoin, par contre, d'un coaching, d'un apprentissage, parce que vous aimeriez vous améliorer sur les réseaux sociaux.
Et les podcasts.
Et les podcasts, voilà. Ça, c'est de mon côté. Donc, mon Instagram. En façon, on va mettre les Instagram.
Chloélie,
en dessous. Donc ça, c'est chez moi, rebranding réseaux sociaux et création et comment en fait finalement on fait un podcast, où est-ce qu'on le met. Donc ça se passe chez moi. On vous fait plein de gros bisous, on vous dit à très bientôt. Merci de faire partie de la team Femininity, d'être de plus en plus nombreux. On vous aime très fort et on vous souhaite une très bonne journée, soirée, vie et plein de gros bisous.